Les sciences.
Les sciences.
La connaissance.
La connaissance.
La connaissance.
L'histoire.
L'histoire.
La nature.
La nature.
La médecine.
La médecine.
L'éthique.
L'éthique.
La psychologie.
La psychologie.
Les arts.
Collège Belgique.
Collège Belgique.
Collège Belgique. Lieu de savoir.
Bien que, comme j'ai dit les fois passées, j'ai dit des choses qui me paraissaient relativement banales, aujourd'hui je vais traiter de sujets qui me paraissent non banals, enfin qui en fait sont sujets à controverse, et je pense que ce que je dis va poser des problèmes, enfin je m'attends à ça pose des problèmes, mais entre gens raisonnables, c'est-à-dire je pense qu'au début avec l'idéalisme et tout ça, je pense qu'effectivement beaucoup de versions de l'idéalisme sont déraisonnables, mais je pense que sur les questions traitées aujourd'hui, il y a beaucoup de gens tout à fait raisonnables sur lesquels qui seront en désaccord, même si je pense qu'in fine, ma position est une position très modérée, comme les autres en fait, et qui me paraît radicale que par rapport à certains excès de la culture dans laquelle on est. Mais bon, donc je vous rappelle, on va voir si ça marche. Donc je vous rappelle le plan. Ça va paraître. Donc le dernier cours, j'avais annoncé, j'ai un peu changé l'ordre. La science est-elle matérialiste, est-elle réductionniste, est-elle réaliste par rapport aux quantités inobservables, est-elle déterministe? Alors, comme la fois passée et la fois précédente, je m'étais étonné d'être arrivé à couvrir tout ce que je me proposais de couvrir. Aujourd'hui, pour le dernier cours, j'ai vraiment préparé de trop, et donc je suis sûr que je n'arriverai pas à tout faire, mais... Donc je veux faire aussi, quand je parle du matérialisme, je veux parler du problème de l'unité des sciences, de l'opposition entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit, qui est une opposition qui était très courante dans le monde germanique. C'est une, pour faire cultiver, j'ai mis ça en allemand, mais ça vient de Dilthé, donc au 19e siècle, et vous trouvez ça dans les querelles sur l'herméneutique, par exemple, sur l'autonomie des sciences humaines, la spécificité des sciences humaines, etc., qui sont des thèmes récurrents dans la littérature sur les sciences, sur la philosophie des sciences humaines, etc. Vous avez des querelles, cette Geist versus Naturwissenschaften, vous l'avez dans un débat entre Adorno et Popper, par exemple dans les années 60, et donc c'est quelque chose d'assez récurrent. Alors, la question par laquelle je vais commencer, c'est celle du matérialisme. Alors je pense que la plupart des scientifiques ont dû rencontrer des gens qui leur ont dit qu'ils étaient matérialistes, des gens de l'extérieur, ou qui pensent que la science est matérialiste, et en général comme reproche, pas toujours, mais en général comme reproche, et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est vrai, et qu'est-ce que ça veut dire. Bertrand Russell faisait remarquer ironiquement qu'en philosophie, il était important de ne pas définir les mots qu'on utilise, parce que ça permettait de longues querelles spécieuses, où les gens s'échangent des dialogues, où ils ne définissent pas ce que ça veut dire. Et donc le problème, c'est de savoir ce qu'on entend par là, avant de savoir si c'est vrai ou faux. Et le matérialisme est une doctrine philosophique qui est une longue histoire et qui est une histoire assez tragique souvent parce que, en général, presque tous les matérialistes sont toujours athées et les athées ne sont pas toujours matérialistes. Donc on peut dire que d'une certaine façon, être matérialiste, c'est pire que d'être athée. Et dans beaucoup de moments de l'histoire, l'athéisme a été très mal vu. Et donc, et même le matérialisme... n'a pas toujours été bien. Ça dépend quel matérialisme, et certains ne sont même pas vus, bien vus par d'autres matérialismes. Et la question est donc de savoir dans quel sens est-ce qu'elle est. Alors, moi je vais évidemment présenter cela comme une doctrine en grande partie négative, c'est-à-dire une doctrine qui est une doctrine contre, une doctrine qui s'est battue contre l'idéalisme, le spiritualisme, la religion, la métaphysique, etc. Une doctrine contre, d'accord ? Mais la question c'est, est-ce que cette doctrine a finalement un contenu substantiel ou bien c'est simplement une doctrine contre? Et disons, ça c'est la première question qu'on veut se poser. On peut dire, par exemple, on peut le définir très négativement comme quelqu'un qui ne croit ni au Dieu, ni au diable, ni à la vie après la mort, ni aux sorcières, astrologues, etc. Mais alors vous pouvez faire une courte liste qui n'est pas exhaustive. Démocrite, Diderot, Engels, Freud, Nietzsche, Lénine, Russell, Monod, Sartre et Dawkins, qui rencontrent toutes ces définitions et qui ont quand même des visions du monde relativement différentes. Et la question c'est, est-ce qu'on peut faire des distinctions, si vous voulez, entre ces gens-là. Alors, je vais commencer par une citation, je vais en faire plusieurs, de Russell, qui est certainement mon philosophe préféré, parce que je pense que c'est une observation qui est très juste. Il dit en général, les dogmes matérialistes n'ont pas été édifiés par des gens qui aimaient les dogmes, mais par des gens qui pensaient que rien de moins net ne leur permettrait de combattre les dogmes qu'ils n'aimaient pas. Ils étaient dans la situation de gens qui lèvent des armées pour défendre la paix. Et les deux dogmes qu'ils mentionnent, c'est seule la matière est réelle et le règne des lois, c'est-à-dire le déterminisme. Alors évidemment, l'idée de lever des armées pour défendre la paix n'est pas toujours heureuse. Après tout, c'est ce qu'ont fait tous les États européens avant la guerre de 14. Et donc, il faut se poser la question, dans quelle mesure est-ce que ces dogmes sont vraiment, est-ce qu'on peut se passer de ces dogmes pour combattre les dogmes qu'ils n'aimaient pas? Et je pense que cette définition négative est assez bonne, dans le sens que le matérialisme, pour moi, et l'empirisme sont d'une certaine façon, pour reprendre la métaphore de Russell, deux armées qui attaquent une citadelle, mais de deux côtés différents. Ce sont des ennemis, ils ont des ennemis communs, la métaphysique, la spéculation, la religion, mais ils ont des angles d'attaque différents. Le matérialisme, que je vais abréger en ME, l'empirisme, s'attaque surtout sur le plan ontologique, qui dit qu'il n'y a que la matière où tout s'y réduit. Et c'est une doctrine qui s'est répandue au XVIIIe siècle, particulièrement en France, comme vous le savez, avec Diderot, d'Holbach, Helvétius, de la Mettrie, etc. L'empirisme, par contre, attaque plus sur le plan épistémologique. Donc, le matérialisme tend à dire ce qui est, et ce qui est n'est pas les dieux, les diables, les sorcières, les fées, etc., mais c'est la matière. L'empirisme est plus épistémologique. Il met des règles sur ce qu'on peut connaître. Comment peut-on connaître? On connaît tout à travers nos sens. D'accord? La primauté des sens, et ça c'est une doctrine qui s'est développée par exemple avec Hume en Angleterre, mais aussi Locke, et qui d'une certaine façon, on parle parfois d'empirisme anglo-saxon, le terme est assez bien choisi, même s'il a été repris par le cercle de Vienne au XXe siècle et par des gens qui ne sont pas exactement anglo-saxons. Et j'ai beaucoup parlé de l'empirisme, j'ai essayé de réhabiliter l'empirisme et de l'expliciter la fois passée, l'argument de Hume, etc. Et le genre d'objection que vous avez des disputes homériques entre matérialistes et empiristes, comme je dis parfois, les sceptiques et les athées, on en trouve de différentes variétés, et ils se mènent souvent entre eux une espèce de guerre de religion. Et donc vous avez les matérialistes et les empiristes qui ne sont pas d'accord. Le matérialiste dit, l'empiriste dit au matérialiste, qu'est-ce que la matière? Comment la connaissez-vous? La matière, le matérialisme pour eux est une nouvelle métaphysique, c'est-à-dire vous introduisez un concept de matière qui est superflu par rapport à ce qu'on a dans les données des sens. Ma façon de résumer l'objection, c'est de dire qu'est-ce que la matière? Est-ce que les nombres, le concept de nombre, l'information, les sensations, le concept de cheval, le neutrino, la fonction d'onde, la physique quantique font partie de la matière? Si on répond oui, le concept tend à se dissoudre dans une tautologie. Si on répond non, mais on peut les ramener à la matière, il faut expliquer comment on procède et de quel concept de matière et de réduction on met en jeu. Et donc vous voyez déjà une difficulté si vous prenez une approche. Mais les matérialistes ont une réponse vis-à-vis des empiristes. Ils disent, pourquoi, quand vous parlez des connaissances sensuelles, pourquoi ne dites-vous pas que vous restreignez simplement aux impressions des sens, et dans ce cas-là, comment éviter le solipsisme? Ça nous ramène à la discussion du premier cours. Donc, comme tout le monde n'était pas à tous les cours, au premier cours, j'ai discuté justement l'idéalisme et l'idée que, d'une certaine façon, le monde, ce sont mes perceptions, hein, c'est tout ce que j'ai, et finalement, si ce sont mes perceptions, je suis ramené au solipsisme, c'est-à-dire j'ai une espèce de film qui se déroule dans ma tête, mais il n'y a rien de réel qui correspond. Et le matérialiste dira, si vous ne postulez pas quelque chose, une matière, si vous voulez, en dehors de votre esprit, alors comment évitez-vous de retomber dans le solipsisme? Donc vous voyez que, même si dans des ennemis communs, ils ne s'entendent pas nécessairement, et... Moi, je vais essayer de défendre, et je pense que la communauté scientifique, vous verrez plusieurs énoncés de ce type-là, s'entendent sur un matérialisme minimal. Et ce que j'appelle, qui a un côté méthodologique ou épistémologique, si vous voulez, un côté ontologique. Le côté ontologique, c'est la continuité entre l'homme et le monde naturel. Et je vais vous donner un exemple magnifique de Diderot, comme ça vous avez un intermède littéraire. Et le côté méthodologique, c'est le monisme méthodologique, c'est-à-dire qu'on a la même attitude lorsqu'on étudie l'humain et le reste du monde naturel, entre guillemets, voulant dire par là que je ne vois pas en quoi l'homme n'est pas parti du monde naturel. Je pense que ce matérialisme minimal a triomphé par défaut. C'est-à-dire qu'il faut se replonger, si on veut comprendre l'évolution des idées, mais ça c'est une question d'histoire des idées, ce n'est pas une question de philosophie actuelle, Si on veut comprendre, par exemple, les matérialistes du XVIIIe siècle, il faut, ou si on veut comprendre Hume, les empiristes du XVIIIe siècle, il faut penser à la scolastique médiévale, mais aussi à la philosophie cartésienne. Et, comme vous savez, chez Descartes, il y a deux substances. Il y a la substance étendue et la substance pensante, et donc il y a l'âme, si vous voulez, et le corps, et les deux sont couplés, ce sont deux substances totalement différentes, et l'âme ou l'esprit, ou appelez ça comme vous voulez, d'une certaine façon, et ça c'est tout le mystère ou tout le problème du cartésianisme, intervient dans le corps, et donc quand je décide d'aller quelque part, il y a mon esprit qui décide d'aller quelque part, et il met mon corps en mouvement. Et la question évidemment, c'est de savoir dans quelle mesure cette mise en mouvement du corps est compatible avec les lois de la physique qui sont supposées régler la façon dont mon corps se déplace. Et donc, je pense que maintenant, plus personne ne pense en ces termes. Plus personne, mais vraiment, vous pouvez faire des blagues sur Lucel si vous venez de l'ULB, mais à Lucel, il n'y a personne en physiologie, en psychologie, etc., qui pense en termes spiritualistes. Mais ce n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce qui est plus comique, c'est, je me rappelle, mais là, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de retrouver la référence, peut-être que quelqu'un peut me la donner, un discours de rentrée, je crois que c'était un discours de rentrée à l'ULB de M. Van Erwegen quand il était recteur de l'ULB, peut-être que tu t'en souviens, je ne sais pas, mais où il parlait d'une histoire du matérialisme à l'ULB, d'une histoire de justement ce matérialisme minimal dont je parle, comment il s'est imposé à l'ULB au XIXe siècle, et à l'ULB au XIXe siècle, il faisait problème. Presque tout le monde était spiritualiste, et les gens qui étaient matérialistes étaient réprimés, etc. Donc ce n'est pas que les méchants catholiques, si on peut dire, qui rejetaient, si vous voulez, ce matérialisme minimal que tout le monde utilise maintenant, qui est celui de tous les physiologistes, de tous les psychologues, etc. Presque. Mais alors, il y a le côté, sauf dans la question du monisme méthodologique, ça j'y viendrai. Alors, je dis, subsiste certains problèmes, et c'est ça que je vais discuter, qui crée pas mal de confusion, et à mon avis, ce matérialisme minimal est parfaitement réconciliable avec un empirisme modérément réaliste, c'est-à-dire, si vous ne tombez pas dans un empirisme qui est complètement, si vous voulez, à la Berkeley, c'est-à-dire où il n'y a plus que vos sensations, si vous acceptez évidemment un monde extérieur, que vos sensations correspondent d'une certaine façon au monde extérieur, ce que j'appelle modérément réaliste, alors vous n'aurez pas de grande différence entre l'empirisme et le matérialisme. À l'époque contemporaine, je pense que dans la communauté scientifique, il n'y a pas de grande différence. Alors je vais commencer donc par resituer les choses historiquement, et particulièrement l'exemple que je dis de Diderot, qui est tiré d'un petit livre que vous pouvez me trouver sur Internet, qui est plus facile quand on veut copier des citations, qui s'appelle « Entretien entre D'Alembert et Diderot ». Et c'est un entretien, justement, sur le problème de l'âme, le problème de cette double substance, si vous voulez, qui a au cœur du cartésianisme et qui est la philosophie dominante, si vous voulez, de l'époque, qui est la philosophie. Il ne faut pas oublier qu'on brûle les livres, on met les gens en prison, etc. Diderot était 3 mois en prison, certains de ses livres ont été brûlés, quand Helvétius a écrit de l'esprit, qui était aussi ce matérialisme minimal, finalement, il a eu son livre brûlé. Donc ce n'était pas une plaisanterie. Et si vous prenez... alors dans ce dialogue, il met en jeu D'Alembert. Alors, D'Alembert est évidemment sûrement un plus grand génie scientifique que Diderot, mais Diderot est beaucoup plus subtil. Donc vous verrez que là, je ne suis pas nécessairement du côté des scientifiques contre les philosophes dans cette affaire, sauf que, évidemment, les paroles de D'Alembert sont quand même écrites par Diderot, et peut-être qu'il est un peu méchant en faisant passer par D'Alembert. Mais il commence par cette question de l'âme, et il fait parler de D'Alembert. Et alors, D'Alembert dit, « J'avoue qu'un être qui existe quelque part et qui ne correspond à aucun point de l'espace. Un être qui est inétendu et qui occupe de l'étendue. Qui est tout entier sous chaque partie de cette étendue. Qui diffère essentiellement de la matière et qui lui est unie. Qui la suit et qui la meut sans se mouvoir. Qui agit sur elle et qui en subit toutes les vicissitudes. Un être dont je n'ai pas la moindre idée. Un être d'une nature aussi contradictoire et difficile à admettre. Mais d'autres obscurités attendent celui qui le rejette. Car enfin, cette sensibilité que vous lui substituez, si c'est une qualité générale et essentielle de la matière, il faut que la pierre sente. » Et donc, D'Alembert repose une question que je reformulerai en termes modernes plus tard, dans quelques minutes, mais il pose la question, il dit « On ne peut pas rendre compte des propriétés de l'esprit sans supposer une substance essentiellement différente de la matière. » Ça, c'était l'argument du cartésianisme. Et par conséquent, il y a cette substance. Alors, cette substance, c'est l'âme, Et comme c'est Diderot qui a écrit les paroles de D'Alembert, il rend l'affaire complètement ridicule en disant la différence entière, la suie, elle se meut sans se mouvoir, etc., etc., parce que personne ne sait rien de ce truc. Alors il répond sur la pierre, en gros il répond que on peut rendre sensible une statue en la prenant, on la moue, et puis on la répand dans de la terre, et puis il y a des plantes, on mange des plantes, etc., et finalement elle se mêle à nous. Mais la meilleure réponse, je pense, c'est celle-ci. C'est un peu plus loin dans le dialogue, il dit, voyez-vous cet œuf? C'est avec cela qu'on renverse toutes les écoles de théologie et tous les temples de la terre. Qu'est-ce que cet œuf? Une masse insensible avant que le germe y soit introduit, et après que le germe y est introduit, qu'est-ce encore? Une masse insensible. Car ce germe n'est lui-même qu'un fluide inerte et grossier. Comment cette masse passera-t-elle à une autre organisation, à la sensibilité à la vie, par la chaleur? Qui produira la chaleur? Le mouvement? Quels seront les effets successifs du mouvement? Au lieu de me répondre, asseyez-vous et suivons-les de l'œil, de moment en moment. D'abord, c'est un point qui oscille, un filet qui s'étend et qui se colore, de la chair qui se forme, un bec, des bouts d'ailes, des yeux, des pattes qui paraissent, une matière jaunâtre qui se dévie des produits des intestins. C'est un animal. Cet animal se meut, s'agite, crie. J'entends ses cris à travers la coque. Il se couvre de duvet, il voit la pesanteur de sa tête qui oscille, porte sans cesse son bec contre la paroi intérieure de sa prison. La voilà brisée. Il en sort, il marche, il vole, il s'irrite, il fuit, il approche, il se plaint, il souffre, il aime, il désire, il jouit. Il a toutes vos affections. Toutes vos actions, il les fait. Prétendrez-vous avec Descartes que c'est une pure machine imitative, mais les petits-enfants se moqueront de vous et les philosophes vous répliqueront que si c'est là une machine, vous en êtes une autre. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'origine du mécanisme, c'est-à-dire qu'évidemment, si on accepte l'idée cartésienne, que je n'accepte pas, mais que les animaux sont des machines, alors évidemment, nous en sommes aussi. Si vous avouez qu'entre l'animal et vous, il n'y a de différence que dans l'organisation, vous montrerez du sens et de la raison. Vous serez de bonne foi. Mais on en conclura contre vous qu'avec une matière inerte, disposée d'une certaine manière, imprégnée d'une autre matière inerte, de la chaleur et du mouvement, on obtient de la sensibilité, de la vie, de la mémoire, de la conscience, des passions, de la pensée. Il ne vous reste qu'un de ces deux partis à prendre. C'est d'imaginer dans la masse inerte de l'œuf un élément caché qui en attendait le développement pour manifester sa présence. Ou de supposer que cet élément imperceptible s'y est insinué à travers la coque. C'est de supposer que s'y est insinué à la coque dans un instant déterminé du développement. Mais qu'est-ce que cet élément? Donc ça c'est l'âme. Occupait-il de l'espace ou n'occupait-il point? Comment est-il venu ou s'est-il échappé sans se mouvoir? Où était-il? Que faisait-il là ou ailleurs? A-t-il été créé à l'instant du besoin? Existait-il? Attendait-il un domicile? Était-il homogène ou hétérogène à ce domicile? Homogène, il était matériel. Hétérogène, on ne conçoit ni son inertie avant le développement, ni son énergie dans l'animal développé. Écoutez-vous et vous aurez pitié de vous-même. Vous sentirez que pour ne pas admettre une supposition simple qui explique tout, la sensibilité, propriété générale de la matière ou produit de l'organisation, vous renoncez au sens commun et vous précipitez dans un abîme de mystères, de contradictions et d'absurdités. Alors, ce texte de. On va voir les difficultés qu'il y a dans la position de Diderot, mais vous voyez, ça c'est ce que j'appelle l'argument de la continuité. Il n'y a rien d'autre que la continuité entre la matière inerte et la matière pensante, animée, etc. D'accord? Et il n'y a entre l'animal et l'homme que des questions de différence d'organisation. Et pour comprendre cela, j'insiste là-dessus parce que on est l'année Darwin, donc on va nous infliger un certain nombre de discours sur Dieu et Darwin. Le raisonnement de Diderot est parfaitement raisonnable et il est bien antérieur à Darwin et il n'a rien à voir d'une certaine façon. On n'a pas besoin de Darwin, la question est assez rapide. Et même sur la question de l'évolution, il dit à un moment donné à D'Alembert, si la question de la priorité de l'œuf sur la poule ou de la poule sur l'œuf vous embarrasse, c'est que vous supposez que les animaux ont été originairement ce qu'ils sont à présent. Quelle folie! On ne sait non plus ce qu'ils ont été qu'on ne sait ce qu'ils deviendront. Le vermisseau imperceptible qui s'agite dans la fange s'agémine peut-être à l'état de grand animal. L'animal énorme qui nous épouvante par sa grandeur s'achemine peut-être à l'état de vermisseau et peut-être une production particulière et momentanée de cette planète. Donc, je ne veux pas évidemment retirer quoi que ce soit au mérite de Darwin pour qui j'ai une énorme estime, mais je pense que si vous voulez réfléchir philosophiquement, vous voulez discuter philosophiquement, en particulier avec les partisans de versions de spiritualisme, etc., vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Je pense que c'est une erreur qu'on fait souvent d'invoquer Darwin, parce que c'est d'une certaine façon faire trop dommage au spiritualisme de croire qu'on a besoin d'une théorie spécifique scientifique. On peut le faire avec des raisonnements de sens commun, comme le fait Diderot. Ça c'est mon point de vue. Et un autre problème, c'est que quand on engage Darwin dans cette aventure, on a tendance à faire de la science quelque chose de trop rigide. C'est-à-dire, on dit, oui, mais si on critique le darwinisme, alors on va nous ramener des fantômes, des dieux, la religion, etc. Et ça, ça empêche les discussions à propos du darwinisme à l'intérieur de la science d'avoir la sérénité qu'à mon avis, elle devrait avoir. Bon, mais ça, c'était une parenthèse. Ah, mais il y a un problème. Et le problème, il est formulé par D'Alembert, mais il est beaucoup mieux formulé, je trouve, à l'époque actuelle, par un philosophe américain contemporain qui s'appelle Thomas Nagel, et qui est « What is like to be a bat ?» le problème de la chauve-souris. Alors, je vais expliquer le problème de la chauve-souris, et ça, c'est un problème avec lequel j'ai toujours beaucoup, beaucoup de difficultés, et donc je vais prendre un petit moment pour l'expliquer. J'espère que j'arriverai à me faire comprendre, mais... le problème de la chauve-souris, c'est le suivant. Vous savez que la chauve-souris a un organe qu'on appelle l'écholocation, et avec ça, elle s'oriente, elle évite des obstacles, etc. Et ce que demande Nagel, c'est d'essayer de comprendre ce que ressent la chauve-souris, ce que ressent la chauve-souris quand elle utilise son écholocation. Et il dit, ça c'est quelque chose que nous ne pouvons pas savoir. C'est quelque chose dont nous sommes absolument bloqués épistémiquement par rapport à la sensation. Alors ça c'est quelque chose qui souvent étonne, comment dirais-je, mes amis et donne l'impression à mes adversaires que je suis plus raisonnable qu'ils ne le pensaient. C'est-à-dire que souvent, les scientifiques me disent « Mais enfin, comment peux-tu accepter ça, qu'il y ait une limite à la science ?» Oui, il y a une limite à la science, une limite à la connaissance humaine. Il n'y a simplement pas moyen de savoir ce qu'elle ressent. À moins, évidemment, de se mettre à sa place réellement en changeant toute notre biologie, mais ça, ce n'est pas possible. Et donc, il n'y a pas moyen, parce que vous pouvez décrire le cerveau de la chauve-souris dans les moindres détails. Vous pouvez le décrire atome par atome, quark par quark, si vous voulez. Vous pouvez le décrire et vous pouvez supposer connaître toutes les possibilités de calcul. Vous pouvez être capable de décrire, vous pouvez être capable de prédire le comportement de la chauve-souris. On viendra avec le déterminisme laplacien. Supposons que vous avez une façon de calculer, vous pouvez prédire exactement ce qu'elle va faire. Vous ne savez pas ce qu'elle ressent. Et vous n'en avez aucune idée. Et j'insiste là-dessus, ce n'est pas un problème sceptique. Ce n'est pas un problème sceptique au sens où le problème sceptique, c'est la personne qui dit « prouvez-moi qu'il y a un monde extérieur à ma conscience ». D'accord ? Ça, c'est presque de la mauvaise foi parce que c'est évident qu'il y en a un et c'est pas ça la question. Ici, c'est pas que je demande qu'on me prouve quelque chose. Je dis que je n'ai aucune idée de ce qui se passe de son point de vue. Et je ne sais même pas s'il a des sensations. Peut-être qu'elle n'en a pas, peut-être que c'est un automate, peut-être que c'est un truc comme mon ordinateur. Je ne le pense pas une seconde, mais je dis peut-être, j'ai aucun moyen de le savoir. Je ne peux pas le tester. Il n'y a aucun moyen d'inventer un test qui me permettra de savoir ça, ce qui se passe de son point de vue. Une fois qu'on accepte cela, alors je crois que Nagel a pris l'histoire de la chauve-souris parce qu'il devait en avoir marre de discuter avec des gens qui ne voient pas le problème. Mais le problème est le même entre vous et moi. Moi je pense évidemment que vous avez des sensations, mais je n'ai aucun moyen de le savoir. Si ce n'est, et là c'est ce qu'on appelle parfois le principe de charité, c'est-à-dire si ce n'est en disant comme moi j'ai des sensations, et j'imagine que vous êtes constitué comme moi, ça c'est l'argument de la continuité si vous voulez, alors je pense que vous avez plus ou moins les mêmes sensations que moi. Mais c'est une banalité de dire que les hommes ne peuvent pas savoir ce que les femmes ressentent quand elles accouchent par exemple. Et d'une certaine façon, si j'avais jamais eu mal aux dents, ou j'ai jamais eu certaines douleurs, heureusement, que d'autres ont, qui me disent c'est horrible, etc., et je ne peux pas vraiment savoir ce qu'elles ont, ce qu'elles ressentent. Et donc d'une certaine façon, il y a l'expérience humaine, il y a dans la sensation quelque chose d'irréductiblement personnel et intérieur, et auquel on a accès par expérience directe, mais pas de l'extérieur. Or, la science est toujours faite de l'extérieur. Dans la terminologie contemporaine, on dit la science est faite à la troisième personne. Ce dont je parle ici, c'est la première personne. C'est « je ressens ». D'accord ? Il bouge son bras. Donc si vous prenez une description, par exemple, je mets mon bras près d'un feu, je retire mon bras, d'accord? Ça va être la description de la troisième personne. Il y a un influx nerveux qui passe dans mon bras, qui remonte à mon cerveau, qui fait tout ce que vous voulez. Vous pouvez décrire dans le moindre détail ce qui se passe dans le cerveau. Vous ne savez toujours pas ce que je ressens. Sauf, par analogie, avec ce que vous ressentez dans une situation semblable. Mais si vous n'aviez jamais ressenti le feu de la main, vous n'en saurez rien. Et donc, c'est quelque chose de très curieux, parce que c'est un problème épistémologique. Ce n'est pas un problème ontologique. Et ça, c'est la différence. Et là où Diderot a raison, mais D'Alembert a un point que Diderot trivialise un peu trop, c'est que c'est un problème épistémologique. C'est-à-dire que je suis incapable, nous, êtres humains, par notre condition humaine, sommes incapables de comprendre ce genre de choses. Et je ne pense pas qu'une nouvelle physique ou le progrès des sciences, etc., etc., va permettre de résoudre ce problème. Et je dois dire, c'est quelque chose de très controversé, parce que quelqu'un que j'aime relativement bien par ailleurs, c'est un philosophe qui s'appelle Daniel Dennett, a quand même écrit un livre de 500 pages qui s'appelle La conscience expliquée, où il tourne en rond autour du problème en prétendant le résoudre sans comprendre le problème, la nature véritable du problème. Francis Crick, qui est certainement un des plus grands biologistes contemporains, a écrit un livre qui s'appelle The Astonishing Hypothesis, je ne sais plus, l'hypothèse surprenante, je ne sais pas comment la traduire en français, mais qui passe tout son temps à dire ce que disait Diderot. Et donc, c'est un peu bizarre, si vous voulez, de venir dire. Enfin, il tourne aussi autour du pot à propos du problème de la conscience, mais bon, pour moi, c'est un problème réel et c'est un problème qui crée beaucoup de confusion. Je pense pas, mais c'est un problème épistémique, on est bloqué, il y a quelque chose qu'on ne connaît, il y a quelque chose dont on sait qu'il existe dans le monde, mais qu'on ne comprend pas par les moyens de connaissance qu'on appelle les moyens de connaissance ordinaires. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que le dialogue entre D'Alembert et Diderot, je vais le reprendre, en fait, je vais le reprendre où je l'avais interrompu ici. Quand il dit, vous aurez pitié de vous-même, vous sentirez que pour ne pas mettre une supposition simple qui explique tout, cette continuité, cette propriété que la matière a de sentir, alors D'Alembert lui dit une supposition. Cela vous plaît à dire, mais si c'était une qualité essentiellement incompatible avec la matière, c'est-à-dire si la sensibilité était, la sensation était incompatible avec la matière. Et là, la réponse de Diderot, ça c'est vraiment the point. Et d'où savez-vous que la sensibilité est essentiellement incompatible avec la matière? Vous, qui ne connaissez l'essence de quoi que ce soit, ni de la matière, ni de la sensibilité, entendez-vous mieux la nature du mouvement, son existence dans un corps et sa communication d'un corps à un autre? D'accord? Et je pense que ça, c'est vraiment le point essentiel, qui est raté complètement par beaucoup de matérialistes contemporains, dont Dennett. C'est que, in fine, il y a un moment donné où nos explications s'arrêtent, et c'est une erreur de croire que nous savons ce qu'est la matière d'une certaine façon, et que nous savons qu'elle est incompatible avec la sensibilité. Ça, c'était l'argument de Descartes. Descartes avait une vue très chosiste de la matière c'était des boules de billard qui s'entrechoquaient. Il disait, tant qu'on prend des boules de billard qui s'entrechoquent, c'est évident qu'il n'y a pas la sensibilité. D'accord? Par conséquent, une autre substance. Et je pense, moi j'ai tendance à dire que le problème est effectivement la façon dont on regarde le monde. On est constitué, là, c'est une propriété intrinsèque de notre esprit, de regarder le monde d'une certaine façon, qui est spontanément et irréductiblement dualiste. C'est-à-dire, nous avons d'une part les sensations que nous connaissons par l'intérieur, et nous avons une vue à la troisième personne qui est vue de l'extérieur, mais il y a un saut entre les deux, il y a un pont entre les deux qui n'y a pas moyen de traverser. Et je pense que, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi là-dessus, mais je pense que c'est malheureusement la réalité. Je peux quand même citer, tout au début de l'histoire du matérialisme, et ça c'est très étonnant, j'ai trouvé ça chez Schrödinger dans un petit livre qui s'appelle Mind and Matter, avec lequel je ne suis probablement pas d'accord avec l'ensemble, mais il y a un dialogue de Démocrite qui est très intéressant entre l'intellect et l'essence. C'est très court. L'intellect dit, apparemment, il y a de la couleur, du sucré et de l'amer, mais en réalité, il n'y a que les atomes et le vide. Donc l'intellect dit, apparemment, il y a des sensations, mais en réalité, il n'y a que de la matière en mouvement. D'accord? Les sensations sont une illusion. Et l'essence répond, pauvre intellect, espères-tu nous vaincre en nous empruntant tes données, ta victoire et ta défaite? C'est beaucoup plus court que Diderot, mais c'est aussi le même, c'est exactement le point, et Schrödinger le résume comme ça, de façon à mon avis tout à fait correcte. Toute connaissance scientifique est en fin de compte basée sur les perceptions de l'essence, mais la vue des processus naturels obtenus ainsi ne contient aucune qualité sensorielle et par conséquent ne peut pas en rendre compte. Et ça, c'est, on peut dire, le problème de la condition humaine, si vous voulez, enfin, un des problèmes de la condition humaine. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas rendre compte des sens. Nous pouvons évidemment, il faut bien se comprendre, on peut rendre compte de ce qu'on appelle parfois le corrélat neuronal de la perception, comme en langage moderne. C'est-à-dire, si j'ai mal, on pourrait en principe décrire dans les moindres détails tout ce qui se passe dans mon cerveau au moment où j'ai mal. Et on pourrait prédire ce qui va se passer. Mais on ne sait pas ce que je ressens, à moins d'avoir soi-même savoir ce que c'est que d'avoir mal. Mais ce que je ressens, c'est complètement. Et ça, c'est très bizarre. Mais c'est comme ça. Si vous avez un moyen de comprendre, mais il faut comprendre le problème, c'est la sensation subjective, comment vous l'exprimez, vous la comprenez dans le langage objectif de la science. Puis là, il y a quelque chose de bizarre, mais ce qui était intéressant, c'est de voir que Démocrite, qui était peut-être un des premiers matérialistes, n'avait aucun problème avec ça. Il a posé le problème et il l'a résolu dès le début, quoi. Enfin, il a posé le problème, disons. La réponse de Diderot est la bonne réponse, c'est simplement, nous ne savons pas in fine non plus ce que c'est. Nous ne pouvons pas savoir ce que ça veut dire que la matière en général est incompatible avec les sensations, nous ne savons pas ça. Parce que le mouvement, par exemple, pourquoi est-ce que nous comprenons le mouvement, pourquoi nous comprenons la force, on viendra aux quantités ultimes en physique. Il y a un moment donné où la question de la compréhension... Mais donc, il faut bien comprendre, c'est très... Un jour, j'ai expliqué ça, j'étais avec un couple de philosophes, enfin, c'était Tim Holdin et sa femme, et sa femme est plus comme des nets, disons. Et alors, je lui ai dit, et au moins, Holdin était d'accord avec moi, je dis, il y a une boule ici, entre tes oreilles et derrière tes yeux, d'accord, et cette boule, faite de matière, elle produit la conscience, elle produit la perception, d'accord. Et quand nous regardons la boule de l'extérieur, nous ne voyons pas la perception. Ça, c'est le problème. Mais il est épistémique. J'ai aucun doute que c'est de la matière qui produit la conscience. J'ai pas de problème. Dans ce sens-là, je suis matérialiste. Et l'argument en faveur de ça, c'est la continuité. C'est l'argument de la continuité, celui qui est donné par Diderot. Mais il n'y a pas d'autres arguments. Et ce qui est intéressant, c'est que, maintenant, évidemment, tout le monde compare le cerveau avec un ordinateur. Et la question, évidemment, se pose aussi alors pour l'ordinateur. Mais Leibniz posait déjà le problème avec un moulin à vent. Et que ce soit plus sophistiqué, on a passé la technologie du moment, il y avait le moulin à vent, puis il y a une centrale téléphonique, maintenant c'est l'ordinateur, mais rien ne change que vous complexifiez votre métaphore ou pas. Déjà dans le moulin à vent, Leibniz, vous vous promenez dans le moulin à vent, vous voyez les rouages, vous voyez tout qui tourne, vous promenez dans le cerveau, c'est la même chose, vous voyez nulle part la conscience. Et c'est pas une question de propriété, on viendra, ça c'est pas comme les propriétés émergentes, comme la chaleur, comme... C'est simplement le problème que... Il y a un langage objectif et un langage subjectif, et vous ne passez pas de l'un à l'autre. Vous pouvez, évidemment, faire un passage une fois que vous connaissez les deux. Ça, c'est aussi le truc qui induit en confusion. Comme vous savez ce que c'est que les sensations, vous pouvez faire une correspondance, vous pouvez faire ce qu'on appelle parfois un parallélisme psychophysique, c'est-à-dire vous pouvez savoir ce qui se passe physiquement, et puis vous savez, par introspection, ce que sont les sensations. Mais l'exemple de la chauve-souris est donné parce que là, vous ne savez pas ce qui se passe chez la chauve-souris, par conséquent, là, vous voyez le problème. Alors, ce problème, il débouche sur une quantité énorme de confusion, à mon avis. La première réaction, évidemment, et celle contre laquelle le matérialisme s'est édifié, c'est le dualisme. Le dualisme cartésien qui est de dire, voilà, le problème est très facile à résoudre. Chacune de ces choses-là correspond à des substances différentes. Mais l'argument de la continuité pose des problèmes à cette notion de substance. Quand est-ce qu'elle pénètre dans l'œuf? Quand est-ce que, par exemple, si on en croit l'acceptation de la théorie de l'évolution par Pidou, soi-disant, dans Humani Generis, il y a l'âme qui apparaît à un moment donné chez un premier Adam, puis ses parents sont des simples animaux qui sont mortels, et lui, il est immortel. Bon, et puis il y a une Ève aussi, non. Mais bon, il y a un Adam... Et alors on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des transformations physiologiques chez cet Adam? Est-ce qu'il y a des transformations mentales? Est-ce qu'il y a un saut qualitatif dans l'évolution quelque part? Ce qui serait une drôle de façon d'accepter l'évolution? Ou bien, est-ce que c'est simplement un truc qui bourre du beurre? Il n'y a rien qui change dans l'être humain tel qu'il est, mais zouf, il y a l'âme qui apparaît. Donc, si vous voulez, le dualisme, alors il y a l'interactionnisme, si vous voulez, c'est ce truc qui n'est pas matériel. Comment est-ce qu'il interagit avec un truc matériel? Est-ce que faisant cela, il viole les lois de la physique? Est-ce qu'il respecte la conservation de l'énergie, de l'impulsion, etc.? C'est quelque chose de totalement incompréhensible. Le dualisme est totalement incompréhensible. Mais le simple fait que le dualisme est incompréhensible ne veut pas dire que le problème n'existe pas. Le dualisme est une mauvaise solution au problème, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas un problème. Alors, il y a l'élimination. Alors, l'élimination, ça a été une tentative qui a été faite au début du XXe siècle par mes amis, les gens du Cercle de Vienne, comme j'ai dit, pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais que j'aime bien en général, mais qui ont quand même été un peu trop loin. Et Carnap, par exemple, voulait tout réexprimer dans le langage de la physique. Et l'exemple qu'il a pris était particulièrement malheureux, je pense. C'est le fait de retirer son chapeau quand on croise en rue une dame que l'on connaît. Outre que maintenant, évidemment, c'est plus tellement courant parce qu'il n'y a plus tellement de gens qui portent des chapeaux. Mais, essayer d'exprimer ça dans le langage de la physique, c'est clair, c'est désespéré. Pourquoi? Parce que c'est comme ça pour toutes les actions humaines, si vous voulez. C'est qu'il y a une intention, d'accord? Ici, il y a une intention qui est d'être poli, mettons. D'accord? Mais il y a une intention, et c'est et ça je prétends, là je suis de nouveau en désaccord avec certains matérialistes, entre guillemets, qu'il est impossible de rendre compte des actions humaines intentionnelles sans tenir compte de l'intention. C'est-à-dire sans accepter l'intention comme un fait brut, si vous voulez. Donc si je vais dans le frigo pour prendre de l'eau parce que j'ai soif, la seule façon raisonnable de décrire la chose, c'est de dire que j'ai soif et que je vais dans le frigo pour prendre de l'eau pour me désaltérer. Je veux dire... il n'y a pas moyen de ramener ça au langage de la physique. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ah, il y a des neurones qui s'agitent dans le cerveau, il y a, etc. Mais à cause justement du problème susmentionné de la conscience et du fait que l'intentionnalité et la conscience sont liées d'une façon... Il y a des gens qui essayent de laisser la conscience d'une certaine façon là et d'éliminer l'intentionnalité, mais ça me paraît très... Bon, ça c'est une discussion assez technique, ça me paraît très difficile. Moi, je préfère simplement avaler le morceau et accepter que le langage dans lequel s'exprime la description des actions humaines accepte, si vous voulez, comme constituant l'intentionnalité. D'accord ? Et que l'intelligibilité des actions humaines ne sont que... L'intelligibilité des actions humaines n'est possible que parce qu'on a une certaine compréhension des intentions. Alors, oui, je vais revenir maintenant, peu importe. Il y a un exemple, par exemple, j'ai pu amener le livre que j'avais mentionné plusieurs fois la fois passée de Susan Haack, qui s'appelle Defending Science Within Reason, qui fait une très très bonne discussion de cette question de l'intentionnalité. Moi, c'est une des choses que j'ai, enfin, pour moi en tout cas, j'ai clarifié mes idées là-dessus, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais en préparant ce cours, mais... Ça m'a longtemps induit en confusion cette histoire, parce qu'il y a énormément de confusion dans la littérature, surtout dans la littérature sur l'épistémologie des sciences humaines, la spécificité des sciences humaines, ce que cette intentionnalité exige. Mais par exemple, elle donne un exemple de tribus en Amérique latine qui vont assez loin de chez elles pour chercher une poudre, enfin des rochers où elles trouvent une poudre qu'elles utilisent pour se décorer, si on peut dire, lors des rites de passage à l'adolescence, des rites d'initiation. D'accord ? Alors, bon, si vous pensez à ça, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est d'une part, vous ne pouvez pas décrire ce comportement sans tenir compte simplement de l'intention. D'accord ? Si vous dites simplement, c'est des machines qui se promènent, qui marchent, etc. Il y a des trucs qui se placent dans leur cerveau, qui mettent leur corps en marche, etc. Elles vont là, elles prennent cette poudre, elles la ramènent, etc. Vous pouvez croire que vous êtes scientifique et matérialiste et patati patata, mais vous ratez simplement le phénomène. Le phénomène, c'est qu'elles vont là parce qu'elles ont besoin de cette poudre. Elles savent que cette poudre est là. Elles vont là parce qu'elles ont besoin elles en ont besoin pour les rites d'initiation. Et ce que dit Haack, qui est très profond, c'est que on ne le comprend, elle dit que, par exemple, en pensant au bal de débutants chez nous. C'est-à-dire au fait que nous avons aussi des rites d'initiation, nous avons aussi des rites similaires à ceux qu'on trouve dans ces tribus d'Amérique latine. Et elle cite une remarque de Hume qui dit que l'histoire humaine serait incompréhensible s'il n'y avait pas une homogénéité de la nature humaine à travers le temps et l'espace. Et ça, c'est quelque chose qui choque beaucoup les gens, mais vous ne pouvez pas comprendre les actions humaines si vous ne pouvez pas les comprendre par rapport à vous-même. Exactement comme vous ne pouvez pas comprendre la chauve-souris, parce que l'expérience de la chauve-souris est radicalement différente de la vôtre. Et si l'humanité était radicalement hétérogène, si par exemple nous n'avions aucune expérience d'aucune sorte comparable au fait que ces gens en Amérique latine vont chercher de la poudre pour s'enduire lors des rites d'initiation, nous n'aurions aucune compréhension de leur phénomène. Et ça, c'est quelque chose d'assez comique parce que... Quand on discute avec des gens, on va revenir avec Foucault, mais avec, par exemple, des Foucauldiens ou des disciples de Foucault, des gens qui sont, ou des marxistes parfois, qui sont radicalement opposés à l'idée de nature humaine, ils ne se rendent pas toujours compte que leur discours sur les cultures, ou les autres cultures, etc., présuppose comme condition d'intelligibilité ce qu'ils nient avec véhémence par ailleurs, c'est-à-dire une homogénéité de l'être humain au niveau de l'expérience qui permet de comprendre l'expérience des autres d'une certaine façon. Bon. Je n'ai pas encore assez de problèmes comme ça. Je vais discuter deux autres réactions. Donc la première ne va pas, c'est le dualisme. La deuxième, ce qu'on appelle parfois l'éliminativisme, qu'on retrouve aussi la phrase de Démocrite, hein, apparemment, les sensations, c'est des illusions, on les trouve chez les Churchland, par exemple, si vous êtes... Quand je me suis rendu compte de ce problème, moi je dois dire que ça m'a obsédé. Comme je me suis rendu compte de ce problème qu'on appelle parfois en anglais le mind-body problem, c'est-à-dire ce problème des sensations, j'ai lu tout ce que je pouvais lire là-dessus. Donc j'ai aussi lu des thèses qui, bon, il y a Bennett, mais il y a les Churchland, etc., qui sont éliminativistes, si vous voulez, un peu comme Carnap. Mais alors il y a l'autre truc qui pose énormément de problèmes, à mon avis, en sciences humaines, et ce qui est ce que moi j'appelle, c'est moi qui appelle ça la dérive herméneutique. Et c'est là qu'on arrive avec l'opposition entre les sciences, Geist et nature. C'est-à-dire, bon, je vais expliquer, là c'est juste un truc mnémotechnique, mais donc, vous avez, depuis le 19e siècle, avec Dilthey, mais probablement avant, peut-être vous avez une réaction justement à l'hégémonie des sciences de la nature, de dire que les sciences humaines, c'est comme les sciences de la nature, l'être humain fait partie de la nature, donc on va l'étudier comme s'il s'agissait d'un objet naturel. Et l'objection est basée justement sur ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire sur le fait que vous ne pouvez comprendre l'être humain que si vous prenez ses intentions comme sui generis, c'est-à-dire si vous les acceptez comme des faits bruts, d'accord? Et si vous les comprenez parce que vous les comprenez, parce que vous-même vous avez des intentions. Si vous essayez de les décrire comme des mécanismes, des machines, etc., y compris le même problème se pose pour les animaux d'ailleurs. Si vous dites qu'un animal va quelque part parce qu'il a faim, il cherche de la nourriture, si vous-même ne saviez pas ce que c'est que d'avoir faim et chercher de la nourriture, vous ne comprendrez pas son comportement. Et donc le décrire de l'extérieur, entièrement de l'extérieur, c'est quelque chose, décrire les êtres humains ou les animaux entièrement de l'extérieur comme s'il s'agissait de particules, ça ne marche pas. Et c'est là où on trouve, si vous voulez, une espèce de différence entre les sciences humaines et les sciences naturelles. Mais il faut bien comprendre quelle est la différence et où elle est, où elle n'est pas. Suzanne Haack raconte, explique ça de façon imagée en disant que quand elle était petite et qu'elle demandait à sa grand-mère de lui expliquer un concept nouveau, sa grand-mère lui disait, tu sais ce que c'est ça et ça? Eh bien, le truc nouveau, c'est la même chose, mais c'est différent. Et elle dit, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que les sciences humaines ne sont pas différentes des sciences naturelles dans un certain sens, mais leur objet, mais elles doivent évidemment prendre en compte leur objet, qui est un objet qui a, entre autres, des intentions. Mais le problème de ce que j'appelle la dérive herméneutique, c'est que comme nous avons besoin, je vais appeler herméneutique pour dire l'interprétation, nous avons besoin d'une certaine façon d'être capables de nous mettre à la place des autres personnes, de nous penser à la place des autres personnes, ce que nous ne pouvons pas faire avec la chauve-souris, pour les comprendre de l'intérieur, nous avons besoin d'une certaine emphasie, comme on dit parfois, empathie, comme on dit parfois, vis-à-vis de la pensée des autres, pour savoir comprendre ce qu'elles veulent dire. Et qu'il faut par conséquent cette homogénéité, cette relative homogénéité de l'être humain. Et on dit parfois, quand on voit un crime monstrueux, bon, c'est d'ailleurs une réaction qu'on a parfois, on dit, si on voit un crime particulièrement monstrueux, ou je ne sais pas, si on parle des nazis, on ne peut pas les comprendre parce que ce n'est pas humain, etc. On veut dire que d'une certaine façon, ils ont dépassé les bornes de ce que nous pouvons comprendre. Mais le fait que nous ayons besoin de cela ne veut pas dire qu'on peut faire une science sans fait. C'est-à-dire que la dérive herméneutique, pour moi, c'est le fait que vous laissiez aller votre interprétation, votre connaissance intuitive de l'humain, au-delà des bornes du raisonnable et au-delà des bornes de ce qui peut être vérifié. Et donc vous pouvez interpréter, vous voyez ça tout le temps dans la vie de tous les jours, vous avez des gens qui interprètent tout le temps les intentions des autres, ce qui se passe, ah oh, mais monsieur là, c'est un salaud, il fait rien, hein, il veut ceci, il veut cela, il veut cela, mais on ne sait pas ce qu'il veut. Pour savoir ce qu'il veut, il faudrait au moins, d'une certaine façon, tester ça. D'accord? Dans la vie de tous les jours, on a une espèce de psychologie intuitive, non scientifique, pré-scientifique. Et moi, je prétends qu'une bonne partie, pas tout évidemment, pas ce qui se fait en laboratoire, etc., mais de ce qui est le problème avec les sciences humaines, pour moi, le principal problème, c'est qu'il y a très souvent une dérive herméneutique, c'est-à-dire qu'on crée une science sans fait, qui est entièrement basée sur nos capacités herméneutiques. Nos capacités herméneutiques sont nécessaires pour comprendre le sens des mots qu'on utilise quand on dit que ces Indiens d'Amérique vont chercher une poudre pour les cérémonies initiatiques. Nous avons besoin de cette compréhension-là. Mais pour savoir, par exemple, le mécanisme causal qu'on peut attribuer à certains aspects des sciences humaines, à certains phénomènes en sciences humaines, si on veut faire une théorie causale, alors elles doivent être basées exactement sur des preuves empiriques, comme en sciences naturelles. Donc, moi je défends le monisme méthodologique, la continuité, si vous voulez, entre les sciences naturelles et les sciences humaines, au niveau de la méthode. Mais comme j'ai expliqué la fois passée, il n'y a pas vraiment de méthode scientifique. Il y a des arguments, comme l'argument de Hume contre les miracles, qui dit qu'est-ce qui me dit que ce que vous dites est sérieux, plutôt que vous trompez ou vous me trompez. D'accord? Ça, c'est la question de base qu'on pose. Et on peut la poser, évidemment, aux sociologues qui croient qu'ils savent résoudre les problèmes des banlieues, à l'économiste qui pense qu'il sait résoudre les problèmes de l'économie mondiale, au pédagogue qui pense que sa méthode va permettre aux élèves d'apprendre mieux, etc., etc. Et donc au psychanalyste qui pense que vous allez aller mieux. Vous posez la même question. Quelles sont les évidences que vous me donnez? Quels sont les faits publiquement disponibles qui me permettent de voir que vous dites la vérité plutôt que vous vous trompez ou me trompez? Mais ça, évidemment, ça c'est exactement comme dans les sciences naturelles, il n'y a pas de différence là. Mais le langage dans lequel les choses sont exprimées n'est pas réductible au langage de la physique. Ça, c'est le point. Alors, je donne l'exemple de la psychanalyse. Je pense que souvent, je pense cet exemple, parce que là, j'ai eu des tonnes de discussions sur la psychanalyse, et les deux questions que je pose toujours, c'est où sont les statistiques de guérison qui montrent que la psychanalyse est efficace de façon non ambiguë? Où sont les prédictions spectaculaires qu'on pourrait tirer de la théorie. Je pense qu'il n'y en a aucune dans ce cas-là, c'est un cas extrême, mais je pense qu'il y a d'autres dérives. Par exemple, je pense qu'un des problèmes qu'on a avec les sociologues des sciences, c'est que beaucoup de sociologues des sciences, quand j'ai parlé la fois passée du conflit, si vous voulez, que Maudlin fait entre le culte radical et, disons, le scientifique, il dit si vraiment le sociologue ou l'historien des sciences pense que il va expliquer les théories scientifiques en faisant appel au conflit de pouvoir, mettons dans la Royal Society au XVIIe siècle, et que c'est ça qui va expliquer pourquoi on croit aujourd'hui telle ou telle chose, alors il y a un conflit direct entre le degré de evidence, comme on dit en anglais, fournissable par l'un et par l'autre, et là, comme dit Maudlin, le scientifique l'emporte avec un bout de papier tiré d'un journal de laboratoire, par opposition à quelqu'un qui fait une étude de la Royal Society, de l'époque, de la classe sociale, du milieu culturel, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que certains ont l'illusion que c'est plutôt l'approche de la société qui est meilleure? Mais parce qu'ils croient à leur pouvoir herméneutique. Ils croient qu'ils comprennent mieux les êtres humains, ils vont mieux comprendre les conflits, si vous voulez, à l'intérieur de la Royal Society que des choses assez techniques et compliquées liées au laboratoire. Et donc je pense qu'il y a un conflit. Et alors, c'est ce que j'appelle le dualisme méthodologique, c'est quand la nécessité de garder un langage spécifique, intentionnel, quand on parle des êtres humains, devient une autonomisation par opposition aux faits, aux données empiriques, aux preuves expérimentales, etc. Et alors en plus, ça je ne vais pas en discuter maintenant, c'est qu'il y a très souvent un mélange fait-valeur, c'est-à-dire que dès qu'on approche l'être humain avec des méthodes scientifiques, on se fait accuser, on se fait traiter de tous les noms, positiviste est encore le plus gentil, parfois c'est fasciste, etc. Enfin je veux dire, on se fait traiter de toutes sortes de noms, et donc ça c'est quelque chose qui, je passe là-dessus, mais... si vous voulez un exemple, vous pouvez trouver il y a quelques semaines, il y avait un article d'Elisabeth Koudinesco dans Le Monde des Livres sur la classification des maladies mentales telle qu'elle est faite aux États-Unis et qui était un mélange fait-valeur total. Alors finalement, il y a ce que j'appelle une science plus humaine. La science plus humaine, par là je veux dire qu'on voudrait une science naturelle dans laquelle ce choc de la différence entre l'intentionnalité ou ce qui est caractéristique de l'humain et ce qui est caractéristique du monde des choses, serait d'une certaine façon, disparaîtrait. C'est-à-dire, on pourrait, d'une certaine façon, espérer que cet antagonisme que remarque Démocrite, si vous voulez, ou que souligne D'Alembert face à Diderot, entre la première personne et la troisième personne, pourrait disparaître si, d'une certaine façon, on changeait un peu le discours à la troisième personne, ou le discours scientifique, ou le discours en termes d'objet. Si on pouvait changer ça, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre la science plus, comment dirais-je, un monde d'objets, mais qui serait plus favorable à l'homme, à l'être humain, à ses désirs, à ses pensées, à ses sensations, etc. D'une certaine façon, elle paraîtrait plus naturellement. Alors là, je n'ai pas le temps de développer, mais je pense que vous trouvez ça chez Whitehead. En tout cas, je le comprends à travers les critiques de Russell, mais je ne peux pas dire que je connais très bien Whitehead. Je pense que vous trouvez ça chez Bergson, ça c'est assez clairement, bien qu'il n'y a pas de science là. Vous trouvez ça chez l'illustre scientifique qui a donné le nom à cette salle. Et vous le trouvez aussi parfois chez Bohr, vous le trouvez dans l'école de Copenhague, vous le trouvez dans cette histoire où on veut d'une certaine façon surmonter la distinction entre le sujet et l'objet, comme on dit parfois, d'une certaine façon en donnant une espèce de science où l'être humain jouerait un rôle, si vous voulez, plus fondamental, où serait plus proche, la matière serait décrite d'une façon plus proche. Mais je pense que moi personnellement, je pense que c'est impossible. Et donc, ce que j'ai voulu souligner dans cet exposé, dans cette partie de l'exposé, c'est que ma position est celle de Schrödinger, si vous voulez, c'est aussi celle de Démocrite et celle de Diderot, c'est qu'il faut accepter le fait brut de cette apparence dualiste du monde. Cette apparence, je dis bien cette apparence, je crois pas que le monde est dualiste. Je pense que l'argument de la continuité montre qu'il ne l'est pas, mais cette apparence où il y a d'une part les sensations, d'autre part la troisième personne, et qu'il n'y a pas moyen de faire le pont entre les deux d'une façon satisfaisante. Et donc, ça c'est la... Mais comme je dis, il faut éviter les différents problèmes que ça peut poser. Alors, je peux peut-être mentionner en vitesse, j'ai encore quelques minutes avant la pause, je peux peut-être mentionner un livre qui m'a beaucoup intéressé, qui est je ne l'ai pas amené ici, mais de Colin McGinn, qui s'appelle Problems of Philosophy, et qui développe par rapport à ce problème de la conscience et d'autres problèmes philosophiques, l'idée suivante, qui est une idée qu'il a empruntée en fait, mais qu'il est adaptée par lui-même, qu'il a empruntée à Noam Chomsky, et qui est l'idée suivante. C'est que nous sommes, si vous voulez, épistémiquement fermés d'une certaine façon. Nous sommes, pour prendre une image que Chomsky donne, vous pouvez imaginer un rat dans un labyrinthe qui, pour sortir du labyrinthe, doit tourner, mais chaque fois que le nombre d'intersections qu'il rencontre est un nombre premier. Et le pauvre rat, il ne va jamais en sortir parce qu'il n'a pas le concept de nombre premier. Et nous sommes vis-à-vis de ces problèmes. Alors, ce que la thèse de McGinn est assez intéressante. Pour lui, les problèmes philosophiques sont par définition les problèmes pour lesquels nous sommes incapables, en fonction de notre constitution humaine, capables de résoudre. Et par exemple, le problème de la conscience. C'est intéressant de voir dans le problème de la conscience, contrairement à tous les problèmes de physique et de biologie, c'est un problème qui était posé par Démocrite, et nous ne sommes pas avancés du tout, à part qu'il y a des gens comme Dennett qui rajoutent de la confusion. Mais nous ne sommes pas avancés d'une virgule par rapport à Démocrite, alors que toute la science a changé depuis Démocrite, et les mathématiques aussi, etc. Et donc, d'une certaine façon, il y a cette intuition qu'on ne peut pas démontrer, que peut-être nous sommes devant un mur, que nous avons un type de problème dont nous ne voyons pas ce qui pourrait constituer une solution, et qui a été vu depuis toujours comme étant quelque chose dont on ne peut pas voir qu'est-ce qui pourrait constituer une solution. La solution étant, encore une fois, de voir le cerveau s'agitant comme un ensemble de matière et d'y voir la sensation telle qu'elle est vécue subjectivement. De traduire, sans utiliser ses propres sensations, de traduire directement le langage de la description à la troisième personne en langage de la première personne. Et donc, ça c'est le... Alors, on peut penser que d'une certaine façon, ce que McGinn nous invite à penser, c'est qu'évidemment, le monde, il y a l'unité, si vous voulez, de la matière et de l'esprit, c'est pas ça la question. Il n'y a rien de mystérieux, c'est seulement nous qui sommes limités. De même que pour le rat dans le labyrinthe, il n'y a rien de très mystérieux pour nous. Mais pour son espèce, oui, nous sommes une espèce biologique. D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est l'ultime évolution du darwinisme, c'est-à-dire de nous prendre nous-mêmes, de nous voir nous-mêmes comme des animaux, et par conséquent des animaux limités, non pas seulement dans le sens que nous n'avons pas courir le 100 mètres en moins d'une dixième de seconde, mais aussi cognitivement limités, et cognitivement limités non pas seulement parce que nous ne savons pas additionner ou multiplier des nombres arbitrairement grands, mais parce que l'appareil conceptuel que nous mettons pour comprendre la nature a certains biais. Et ça, évidemment, pour ceux qui n'aiment pas mes critiques sur Kant, on peut trouver ça un peu chez Kant, et on peut trouver ça chez d'autres philosophes, mais pas exprimé aussi clairement. Et je pense que ça, c'est la conclusion relativement pessimiste à laquelle j'arrive, mais qui est parfaitement, de nouveau, matérialiste. En fait, elle est réellement matérialiste, parce que souvent, j'ai des matérialistes qui me disent « mais c'est pas possible, la raison humaine n'a pas de limite, etc. » Et je me dis « où est-ce qu'ils ont été cherchés qu'un animal particulier, sur une planète particulière, n'a pas de limite ?» D'accord ? Je veux dire, évidemment, qu'il y a des limites. Mais les limites ne sont pas seulement les limites de mémoire, de rapidité, etc., mais peut-être aussi des limites conceptuelles. Le regard qu'on jette sur le monde a quelque chose de biaisé et nous amène à cette forme de regard dualiste qui alors crée des confusions, mais une fois qu'on dissipe les confusions, il n'y a pas, si vous voulez, de différence significative entre les sciences humaines et les sciences naturelles. Alors, je vais peut-être terminer par... Je pense, attendez, je regarde, oui, c'est ça. Donc, je vais terminer parce que comme ça, je peux faire le réductionnisme à la deuxième heure. Un séminaire que j'ai écouté à la KUL il y a quelques années, où il y avait une philosophe de la biologie, on va dire, Janet Radcliffe Richards, qui est assez sympathisante de la sociobiologie, qui était là. Pour la petite histoire et pour les ULBIS dans la salle, c'est assez comique parce que c'était une conférence qui était organisée. Parce que la KUL avait décidé de trouver un sens au K, donc au C si vous voulez. Bon. Et alors pour trouver un sens au K, ils ont demandé aux gens de faire une journée de réflexion sur la science, enfin sur quelque chose en dehors de leur faculté particulière. Et donc ils ont demandé de faire ça pour les scientifiques, les physiciens, enfin je ne sais pas si c'était toute la faculté, oui je crois que c'était la faculté des sciences, ils ont fait une journée particulière et ils ont invité cette madame entre autres à parler, il y avait d'autres personnes qui étaient tous des matérialistes convaincus, et j'ai trouvé un peu comique que, ça n'a absolument choqué personne, mais je trouve un peu comique que quand la KUL essaye de trouver le sens du mot « car », ce à quoi on en arrive aujourd'hui quand on confie la question à des scientifiques, c'est que des matérialistes convaincus sont invités à nous expliquer, à nous amener à réfléchir à la science. Alors, ce que elle donne quatre attitudes par rapport au darwinisme, entre guillemets. Mais darwinisme, entre guillemets, je dis, c'est essentiellement de nouveau l'argument de la continuité, si vous voulez. C'est le fait que nous devons nous voir comme des animaux particuliers. Alors, il y en a une, il y a deux qui sont non matérialistes, si vous voulez. Le créationnisme et l'intelligent design, ça, on ne va pas en parler parce qu'on a déjà un peu parlé de l'intelligent design et vous en entendrez parler. Mais les autres sont matérialistes, entre guillemets, et ce sont pratiquement les seuls respectables, on va dire, ce sont les seules attitudes, si vous voulez, que vous trouvez dans les laboratoires et les universités. Mais il y a quand même encore une coupure qui, à mon avis, existe dans les sciences humaines et qui est, il y a deux attitudes, si vous voulez, dont l'une, à mon avis, n'est pas réellement matérialiste ou n'est pas de façon cohérente, bien qu'elle se voit comme matérialiste. Et ça, je n'ai pas le temps de développer. Mais l'une, c'est qu'il y a introduit une coupure nature-culture. Vous trouvez ça dans différentes versions, je vais mettre différentes versions du Freud, du marxisme, de sociologie, d'anthropologie culturelle, etc. Ou d'une certaine façon, la nature biologique de l'être humain n'apparaît jamais dans la discussion. Les contraintes biologiques sur l'esprit, sur le cerveau, n'apparaissent jamais. Et alors, il y a ce que j'appellerais les tentatives d'intégration de l'analyse de l'être humain, des sciences naturelles et des sciences humaines. Vous avez ça dans les sciences cognitives, dans la sociobiologie, dans la génétique des comportements, dans la psychologie évolutive. Et j'insiste là-dessus parce que, après, je citerai une remarque critique à propos des gens qui sont excessifs de ce côté-là, mais c'est important de comprendre que je pourrais donner des quantités de livres et de références dans cette ère-là, où la question même de savoir s'il y a quelque chose de génétique, s'il y a des différences génétiques entre les gens, s'il y a des différences, ou s'il y a des universaux dans l'être humain, n'est jamais posée, même pour être réfutée. D'accord ? Même pour être réfutée. Et donc, la question n'est même pas posée quand on se place dans cette ère de réflexion-là. Et alors, évidemment, les gens qui défendent ce point de vue-là, maintenant, ils débarquent et ils disent, ouais, mais est-ce que vous n'avez pas oublié quelque chose ? Par exemple, je vais prendre l'exemple, l'article qui m'a été donné la semaine passée, je vois un article dans The Proceedings of the National Academy of Science qui s'appelle Cognitive and Neural Foundations of Religious Beliefs. Ok, alors ça, ce sont que ça te fait rire, mais
oui, c'est très drôle à lire.
Pourquoi?
C'est tout à fait biaisé.
Oui, ça c'est typique de simpliste. Oui, ça c'est typique de la réaction de la première école de pensée.
Moi, je suis plutôt dans la deuxième position, mais je trouve justement l'article.
Oui, mais attends, je vais te dire alors ce que... N'empêche, c'est typique de la... C'est peut-être pas que toi, tu es dans la première position, mais c'est assez typique. C'est-à-dire que quand je donne ça aux gens qui sont en première position, ils vont me dire, on n'a pas besoin de ça parce qu'on a une théorie de la religion. On a une théorie freudienne de la religion, une théorie marxiste de la religion, une autre théorie, on a... chacun a une théorie de la religion. C'est très facile de faire des théories de la religion. Moi, je peux faire une théorie de la religion aussi. Mais le problème, c'est où sont les tests? Où sont les tests vraiment au sens des sciences naturelles? Ça? Où sont les tests de cette théorie? Alors, ce que je trouve intéressant, je n'ai pas lu l'article, en fait, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais ce que je trouve intéressant, c'est que les gens, au moins, se posent la question, et ils font des études, maintenant, sur les corrélations, le corrélat neuronal de la conscience religieuse, si tu veux, le corrélat, ils se posent au moins des questions, ils se disent, est-ce qu'il y a une base génétique à cela? Est-ce qu'il y a peut-être une base évolutionnaire à ça? Toutes des questions qui n'ont jamais été posées auparavant. Et donc, les questions qui n'ont pas été... Je ne dis pas qu'ils répondent bien à ça, je te dis, je n'ai pas lu l'article, je l'ai... Et je sais que si je discute avec les partisans des sciences humaines traditionnelles, je vais appeler ça comme ça, ça c'est les nouvelles sciences humaines, ça c'est les sciences traditionnelles, dans les sciences humaines traditionnelles, on va me dire, mais c'est simpliste, on n'a pas besoin de ça, de toute façon on a déjà une théorie, etc. D'accord ? Et je pense que justement il y a un impensé qui est tout l'aspect biologique de l'être humain, et qui est là, et qui est important, et qui est incontournable. Et on pourrait trouver des tonnes de livres, etc., et de références qui montrent expérimentalement que la vision des choses qu'on a sur la base de ce que j'appelle de ce qu'ils appellent aussi l'environnementalisme, c'est-à-dire l'idée qu'on ignore complètement le donné inné de l'être humain, est une position intenable. Alors je vais terminer par ça c'est quelque chose que moi-même j'ai écrit, mais bon. Au XIXe siècle, le physicien Ludwig Boltzmann remarquait que son siècle serait celui de Darwin. Peut-être que le XXIe siècle lui donnera raison. Les avancées de la psychologie cognitive et évolutive, la génétique et les neurosciences jettent parfois un vent de panique dans certains milieux des sciences humaines. Si l'on regarde ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, on peut raisonnablement penser que les enfants de Freud et de Marx finiront par céder la place aux héritiers de Darwin, de Mendel et de Turing. Il reste à espérer que ceux-ci, lorsqu'ils auront pris le pouvoir, pour reprendre le titre d'un livre contre cette dérive, cette tendance, resteront de bons positivistes, c'est-à-dire de bons sceptiques et de bons empiristes, et qu'ils ne transformeront pas leurs théories en de nouvelles vulgates et de nouveaux dogmes. Mais les intérêts idéologiques et matériels liés à tout discours sur l'humain faut qu'il ne s'agisse sans doute là que d'un vœu et probablement que d'un rêve. Alors, je vais éviter trop de malentendus. Donc, premièrement, évidemment, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas de science humaine. D'abord, je dis sûrement pas que les sciences humaines sont impossibles. Tout ce que je dis, c'est qu'elles ne sont pas. Je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas rendre compte de l'intentionnalité sur des bases sociales et des choses comme ça. J'ai simplement dit que la description purement physique, si on veut, échappe, rate le coup de la conscience. Et alors, la savoir si l'intentionnalité et la conscience peuvent être séparées, ça c'est une question délicate et je vais faire comme si elles ne pouvaient pas l'être, disons, pour simplifier la vie. Peut-être qu'elles peuvent l'être, mais je ne l'ai pas clair. Et donc, je voulais simplement dire que je l'accepte comme un fait brut, si tu veux. Donc, j'accepte. Non, mais c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la question de savoir si une science sociale peut. Je ne veux absolument pas dire qu'elles ne sont pas possibles, je pense qu'elles existeront un jour, je pense vraiment qu'elles ne sont pas très développées aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai voulu dire, et que le problème des tests empiriques ne peut pas être éliminé. Et je pense qu'il y a une tendance à oublier les tests empiriques dans certaines parties, d'une part, et d'autre part, que la question de la biologie ne peut pas être ignorée, or elle est ignorée. Tant on peut dire que les biologistes exagèrent d'un côté, il faut reconnaître que les autres ont exagéré énormément de l'autre. Et donc, alors, la question du réductionnisme, il y a un article assez intéressant de Anderson, qui est un prix Nobel de physique en 77, et qui s'intitule « More is different », qui a été publié dans Science en 1972, et qui est un article extrêmement cité et étudié, et qui... m'intéresse. Enfin, on oppose en général Anderson et Steven Weinberg, qui est un physicien des particules élémentaires, qui a écrit un livre ici qui s'appelle Le rêve d'une théorie ultime, où il défend sa vision du réductionnisme. Et à mon avis, vous verrez que la différence entre les deux est en fait relativement minime et elle est très petite par rapport à ce qui se passe par rapport à d'autres secteurs de l'intelligentsia, si on peut dire. Et je pense qu'il y a un espèce de nouveau. Comme je dis, il y a ces guerres de religion entre sceptiques et matérialistes de différentes écoles, mais qui en fait ne sont pas très différents entre eux par rapport à tout le reste du discours intellectuel. Et donc, Phil Anderson commence en disant « L'hypothèse réductionniste est peut-être une question controversée parmi les philosophes, mais parmi la grande majorité des scientifiques actifs, je pense qu'elle est acceptée sans question. Le fonctionnement de nos esprits et de nos corps, et de toute la matière animée et inanimée, dont nous avons une connaissance détaillée, est supposé être contrôlé par le même ensemble de lois fondamentales qui, à part dans les conditions extrêmes, que nous connaissons assez bien, à part dans des conditions extrêmes. Il semble inévitable que l'on aille de façon non critique à ce qui apparaît à première vue comme un corollaire évident du réductionnisme, que si tout obéit aux mêmes lois fondamentales, alors les seuls scientifiques qui étudient quelque chose de vraiment fondamental sont ceux qui travaillent sur ces lois. Et ça, c'est l'argument, si vous voulez, auquel Anderson veut s'attaquer dans son article, et qui fait la différence avec Weinberg. J'ai oublié de mentionner, c'est que il y a une opposition réelle, mais qui est une opposition non philosophique, parce que Weinberg a beaucoup milité pour créer le superconducting collider, donc l'accélérateur qu'il voulait construire au Texas. Il a voulu que ce soit financé par le Congrès américain et Anderson a été jusqu'à témoigner au Congrès contre le financement de cet accélérateur. Donc ils étaient évidemment assez opposés en ce qui concerne l'usage des ressources. Donc c'est un peu l'équivalent du LHC qu'on a fait au CERN. Et alors évidemment, un cynique pourrait dire que c'était quand même une bonne chose que finalement on n'en a fait qu'un seul sur la planète, surtout s'il ne fonctionne pas. Mais je veux dire... Et il cite un physicien qui s'appelle Wyckoff, qui dit, si on regarde, donc lui est un physicien, c'est lui, ça c'est l'énoncé qu'il veut critiquer, si on regarde le développement des sciences au XXe siècle, on peut distinguer deux tendances, que j'appellerais, par manque d'un meilleur mot, intensive et extensive. En bref, la recherche intensive cherche les lois fondamentales, la recherche extensive cherche à expliquer les phénomènes en termes de ces lois fondamentales. Comme toujours, des distinctions de ce genre ne sont pas sans ambiguïté, mais elles sont claires dans la plupart des cas. La physique de l'état solide, la physique des plasmas et peut-être aussi la biologie sont extensives. L'énergie, la physique des hautes énergies et une grande partie de la physique nucléaire sont intensives. Il y a toujours beaucoup moins de recherches intensives que de recherches extensives. Parce qu'une fois que les lois fondamentales sont découvertes, une partie grande et croissante de l'activité se met en route de façon à appliquer, c'est moi qui ai souligné le mot appliquer, c'est pas lui, appliquer les découvertes à des phénomènes jusqu'à présent inexpliqués. Et donc ça, c'est la réponse d'Anderson, c'est la suivante. La principale erreur dans cette façon de penser est que l'hypothèse réductionniste n'implique en aucune façon une hypothèse constructionniste. Ici, on ne parle pas de constructionnisme social, hein, vous allez voir ce que je veux dire. Mais la capacité de tout réduire à des lois simples, fondamentales, n'implique pas la capacité de partir de ces lois et de reconstruire l'univers. En fait, plus les physiciens et les particules élémentaires nous disent des choses sur la nature des lois fondamentales, moins elles sont pertinentes ou semblent pertinentes aux véritables problèmes du reste de la science ou plus encore de la société. L'hypothèse constructiviste s'effondre quand elle est confrontée aux doubles difficultés de l'échelle et de la complexité. Le comportement d'agrégats grands et complexes de particules élémentaires ne peut pas être compris en termes d'une simple extrapolation des propriétés d'un petit nombre de particules. Au contraire, à chaque niveau de complexité, des propriétés entièrement nouvelles apparaissent, et la compréhension de ce nouveau comportement requiert une recherche qui, je pense, est aussi fondamentale dans sa nature que n'importe quelle autre. C'est-à-dire, il me semble qu'on peut, en gros, hiérarchiser linéairement les sciences d'après l'idée suivante. Les entités élémentaires de la science X obéissent aux lois de la science Y. Alors, il fait la hiérarchie comme ça. Il dit les entités élémentaires de la physique de l'état solide obéissent à la physique des particules élémentaires, ou il pourrait dire la physique atomique, mais enfin. La chimie obéit à la physique des many bodies, des plusieurs corps. La biologie moléculaire obéit à la chimie. La biologie de la cellule à la biologie moléculaire. La psychologie à la physiologie. Les sciences sociales à la psychologie. Il y a une espèce de réduction, si vous voulez, étape par étape, où on dit les entités élémentaires ici obéissent aux lois de là. D'accord ? Mais le punchline, c'est cette hiérarchie n'implique pas que la science X est simplement la science Y appliquée. Or ça, c'était plus ou moins ce que disait Weisskopf. D'accord ? Alors Anderson donne toute une série d'arguments. Par exemple, la brisure de symétrie dont vous avez entendu parler à propos du LHC. Mais il donne des exemples. La superconductivité, ça c'est un exemple assez intéressant, la superfluidité, etc. Il y a toutes sortes de phénomènes en physique, enfin non, dans ce qui est plus ou moins mon domaine, enfin c'est pas vraiment mon domaine, enfin c'est proche de mon domaine, dans la physique macroscopique, qu'on n'aurait jamais inventé ou que l'on n'aurait jamais pensé simplement en étudiant l'équation de Schrödinger pour un certain nombre de particules. Évidemment, une fois qu'on y a pensé, alors on cherche à les expliquer en termes d'équation de Schrödinger, une fois qu'on les a découvertes. Mais la découverte elle-même, elle va parfois même contre ce qu'on croit être des lois, c'est-à-dire on croyait jusqu'à ce qu'on découvre la superconductivité haute température que c'était impossible. On avait des théories microscopiques qui montraient que c'était impossible. Et puis quand on a découvert, on a dit mais il y a une erreur dans la théorie microscopique. Donc Anderson a beaucoup travaillé là-dessus, sur ce genre de physique. C'est un homme prodigieusement intelligent, dans ces espèces de numérologie un peu idiotes comme les classements de Shanghai. Il y a quelqu'un qui est arrivé à déterminer qu'il était le scientifique le plus créateur de notre temps. Mais c'est certainement quelqu'un, je n'aime pas beaucoup ces classements, mais enfin c'est certainement quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et alors, je l'ai rencontré à Trieste, il y a un certain nombre d'années, dans une conférence où on parlait, enfin c'était une conférence, j'expliquerai dans un moment, mais on parlait tous les deux, et lui se plaignait justement, comme idée d'avoir toujours été dist, c'est-à-dire dismiss, disregarded, etc. C'est de l'argot par des physiciens qui font des choses en principe plus fondamentales. Alors, il dit, ça c'est ce qui va plaire à José, l'arrogance des physiciens des particules et ses recherches intensives sont peut-être dépassées. Il dit, le découvreur du positron a dit, le reste c'est de la chimie. Donc, mais nous avons encore à nous débarrasser de celle de certains biologistes moléculaires qui semblent déterminés à tout réduire à propos de l'organisme humain, à n'être que de la chimie, depuis le rhume jusqu'à la maladie mentale et à l'instinct religieux. Ça nous ramène à l'autre problème. Il y a certainement plus de niveaux d'organisation entre l'éthologie humaine et l'ADN qu'il y en a entre l'ADN et l'électrodynamique quantique, et à chaque niveau peut requérir un nouveau système conceptuel. Là encore une fois, il faut bien comprendre que Anderson est tout à fait réductionniste au sens au sens de Weinberg. Parce que Weinberg, évidemment, quand on lit la controverse, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en fait, il y a une controverse qui est furieuse sur la question des financements, mais ça c'est autre chose. Mais si on regarde vraiment la question philosophique, tout ce que dit Weinberg, c'est toujours la même chose. Il dit, si vous essayez d'expliquer, si vous êtes, comme il dit, un enfant mal élevé qui n'arrête pas de poser la question pourquoi, alors les flèches d'explication vont toutes pointer vers les entités élémentaires de la physique. Parce que vous pouvez imaginer un monde, si vous voulez, où il y a de la physique, mais il n'y a pas de chimie. Après tout notre monde, il y avait de la physique et pas de chimie. Vous pouvez imaginer un monde où il y a de la chimie, mais pas de biologie, parce qu'avant la naissance de la vie, il y avait de la chimie et pas de la biologie. Et vous pouvez évidemment imaginer un monde où il y a de la biologie, mais pas de la psychologie, parce que vous avez des animaux élémentaires, etc. Et donc, vous avez d'une certaine façon, les flèches réductionnistes vont toujours aller vers les lois les plus générales, les plus fondamentales. Il y a un sens, effectivement, dans nos explications, qui peut être lié à la structure réelle du monde, qui fait que nos flèches explicatives vont dans ce sens-là. Jamais vous n'allez invoquer la biologie pour expliquer la physique atomique. D'accord ? Jamais vous n'allez invoquer. C'est d'ailleurs une des choses qui est paradoxale quand on étudie les discours de Bohr, Heisenberg, la chose qui nous choque, enfin qui moi me choque, quand on lit ce que disent les partisans de l'école de Copenhague, dont je ne vais pas pouvoir parler, mais quand ils parlent de la mécanique quantique, c'est qu'il faut intervenir l'observateur, c'est-à-dire l'observateur humain, comme quelque chose d'essentiel quand on parle de particules ou de molécules, etc. Et ça choque notre intuition réductionniste qui veut qu'on aille toujours, d'une certaine façon, expliquer la biologie par la chimie, puis la chimie par la physique, etc. Et ça, c'est le principal argument de Weinberg, mais Anderson n'a rien en désaccord avec ça. Le seul problème d'Anderson, c'est comme il dit, c'est comment est-ce qu'on remonte ? Est-ce qu'on remonte ? Moi, j'ai eu des discussions avec des physiciens. Je me rappelle de deux exemples, l'un où j'étais là et l'autre où j'étais pas là. J'étais avec un physicien éminent qui a dit, on va avoir une théorie ultime de tout, et voilà, avec ça, on va tout calculer. On ne calcule rien, d'accord ? Et quand les strings ont été inventés, c'était la même chose. On va avoir une théorie. En 84, à Harvard, il y avait quelqu'un que je connaissais qui était là, et il dit, maintenant, on a une théorie de tout, on va pouvoir tout calculer. Et alors, ironiquement, la personne que je connais a dit, bon, on va savoir s'il y a du sexe après la mort. Et maintenant, ils ne savent toujours pas faire de prédiction testable avec cette théorie, 25 ans après, la théorie qui allait permettre de tout calculer. Donc, il y a une illusion, si vous voulez. Mais cette illusion n'a rien à voir avec des débats qui, en général, sur le réductionnisme avec d'autres personnes. C'est ça. Et je veux illustrer ça par une anecdote. Qui s'est passé? Oui.
Anderson et Weinberg se disputent sur la nature des flèches, pas sur la direction des flèches. Ils sont d'accord sur le fait qu'il y a une interdépendance que tu viens de nommer vers les niveaux inférieurs, mais ça ne veut pas dire que les niveaux inférieurs vont permettre d'expliquer
non.
Complètement...
Oui, mais le problème, c'est que Weinberg ne dit pas ça non plus. Weinberg ne dit pas ça non plus, tu vois.
La flèche est une interdépendance par une explication.
Oui, mais tu ne vois pas ça chez Weinberg, tu vois. Weinberg, quand tu... Alors, je vais te donner une anecdote, justement, qui a à voir... Et qui est illustré très bien par ce que dit Weinberg. Quand j'étais à Trieste, j'ai fait un exposé à une espèce d'école pour des futurs journalistes scientifiques, des étudiants en journalisme scientifique. Et j'ai fait un exposé sur un bouquin, etc. Et Anderson a fait son exposé contre le réductionnisme. D'accord ? Et puis après, j'ai parlé avec des étudiants de l'école, et ils étaient enchantés par le truc d'Anderson. Enchantés. Pourquoi ? Parce que ça justifiait à leur égard, à leur idée, ça justifiait les médecines holistiques. Tu vois ? Et évidemment, il n'y a rien de ça chez Anderson. Et donc, il y a une terrible confusion. Après, j'ai été voir Anderson, je dis, mais il faut faire attention à ta façon de t'exprimer, parce que tu n'as pas compris. Les gens croient que, tu vois, tu vas justifier toutes sortes de trucs pseudo-scientifiques. Et je pense qu'à un moment donné, à la fin de son discussion du réductionnisme, Weinberg donne un exemple qui me paraît intéressant. Il dit, du réductionnisme, il dit, supposons que vous ayez des données sur l'efficacité réelle, je veux dire, au-delà de l'effet placebo, de deux types de médecine, vous avez ça qui est publié dans un journal scientifique sérieux, comme par exemple l'histoire qu'on a discutée la fois passée de Benveniste avec l'homéopathie. Vous avez deux types de données. L'une, c'est qu'il y a une certaine maladie qui peut être guérie en prenant de la soupe au poulet, et l'autre, par imposition des mains d'un roi. Vous avez deux tests, et vous avez des tests systématiques qui montrent que les deux trucs permettent de guérir la maladie. Weinberg dit, nous allons être infiniment plus sceptiques par rapport au deuxième type de test que le premier. Après tout, l'imposition des mains d'un roi, ça existait dans le passé, les gens ont cru que ça servait à guérir. Mais le dire aujourd'hui est tellement incompatible avec notre vision du monde réductionniste, et c'est le même problème avec l'homéopathie, si vous voulez, avec notre vision réductionniste du monde, que ça paraît totalement impossible. La soupe au poulet, je ne vais pas dire que je vais croire ça tout de suite que c'est efficace, mais... au moins il y a des éléments matériels là-dedans, il y a quelque chose qui est, ça pourrait être compatible. Le degré de scepticisme est nécessairement différent, et la différence entre les deux est liée justement à cette titre de l'article, Maurice Diffrand. Pour finir, il dit, je vais donner deux exemples de l'économie de ce que j'espère avoir dit. Marx a dit que les différences quantitatives deviennent les différences qualitatives, mais un dialogue à Paris dans les années 20 résume la chose encore plus clairement. C'est un dialogue entre deux. Alors, Fitzgerald qui dit à Hemingway, les riches sont différents de nous, Hemingway dit oui, ils ont plus d'argent. Mais Weinberg répond en disant, je soupçonne que tous les scientifiques en activité, peut-être la grande majorité des gens, sont en pratique tout aussi réductionnistes que moi, bien que certains comme Ernst Mayr en biologie et Philip Anderson n'aiment pas s'exprimer en ces termes. Mais je pense qu'en réalité, il n'y a pas de véritable différent. Il termine son... Vous connaissez peut-être cette phrase de Nixon qui a dit un jour, nous sommes tous keynésiens aujourd'hui, ce qui était peut-être plus tout à fait vrai quelques années plus tard. Mais en tout cas, Weinberg termine son chapitre en disant, nous sommes tous réductionnistes. Et dans un sens scientifique, au sens où Anderson le dit au début, je pense que ça c'est un exemple de ce que j'appelle le matérialisme minimal, et sur lequel tous les scientifiques aujourd'hui sont d'accord, la différence entre Weinberg et Anderson. Je ne pense même pas que Weinberg est vraiment en désaccord avec Anderson. Weinberg n'est pas du genre à dire on va prendre la loi fondamentale et on va tout calculer. Mais il dit que c'est d'une certaine façon plus intéressant d'avoir la loi fondamentale que le reste. Mais c'est la différence est vraiment minime. Hein. Je vais terminer par mon credo scientiste, entre guillemets, pour faire plaisir à José. C'est une phrase d'Elisabeth Roudinesco qui est typique de du baratin que les psychanalystes font pour s'attaquer à la science. Il dit « Théologie laïque, le scientisme accompagne sans cesse le discours de la science et l'évolution des sciences en prétendant résoudre tous les problèmes humains par une croyance en la détermination absolue de la capacité de la science à les résoudre. » Ça, je dois dire, j'ai jamais entendu personne dire ça, mais bon, elle attribue ça. Et alors, dans un article que j'ai écrit il y a un certain temps, j'ai contrasté ça avec ce que disait Russell à la fin de l'histoire de la philosophie occidentale. Il, les philosophes tels que lui, admettent volontiers que l'intellect humain est incapable de trouver des réponses définitives à de nombreuses questions fort importantes pour l'humanité. Mais, et c'est ça l'important, il refuse de croire qu'il existe une plus haute façon de connaître, grâce à laquelle nous pouvons découvrir des vérités cachées à la science et à l'intellect. Et dans ces vérités, je vous en ai donné plusieurs, celle de la religion, celle de l'herméneutique, enfin quand elle est débridée, on va dire, et celle de l'interprétation des textes sacrés, de la révélation, etc. Et donc je pense que ça c'est la phrase, ça c'est mon credo scientiste qui n'a rien à voir avec l'idée qu'on peut résoudre toutes les questions, etc. Il n'y a jamais personne qui a dit ça, mais la question c'est de savoir s'il y a une méthode plus haute de connaître grâce à laquelle, c'est ça la question. Ok, merci.